Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
C'est bon de venir ici, amen. On ne s'en lasse pas. Moi, je ne m'en lasse pas. Je suis tellement bénie. On a une très bonne louange. Après, on a une très bonne exhortation pour les offrandes, enseignements. Et maintenant, on va avoir une très bonne parole. Vraiment, le Seigneur est merveilleux.
Il
nous donne toujours de bonnes choses. Pas des choses moyennes. Pas du réchauffé.
Amen.
Vous savez que le réchauffé, ce n'est pas bon. Hein?
Ah,
c'est vraiment pas bon. Je vais vous faire une confidence. Mon travailleur, il aime bien faire du réchauffé à la maison. Alors, il cuit une énorme quantité, alors qu'on n'est pas très nombreux.
Et puis,
on en mange la moitié, à peine. Alors demain, le soir, il réchauffe. Le lendemain midi, il réchauffe. Le lendemain soir, il réchauffe.
Alors,
ce jeudi soir-là, c'est moi qui garde tous les trucs réchauffés pour moi, je donne des bonnes choses aux autres. Là.
Alors,
je vois, ce riz, il a une semaine. Ces légumes, ils ont 4 jours. Et ceux-là, ils ont 3 jours.
Alors,
je mets dans mon assiette. Après, je vais le voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est vraiment pas bon. C'est réchauffé. Ça n'a plus aucun goût. Alors, j'ai mangé des mandarines. Mais ça a un beau côté, le côté réchauffé, vous voyez, j'ai quand même... Sérieusement, le Seigneur est vraiment, moi je l'aime beaucoup, même plus que beaucoup. Il ne nous donne jamais du réchauffé, amen. Voilà pourquoi le mot réchauffé avait un sens particulier pour moi ce matin. Ce matin, nous allons partager la parole sur l'adoration. Précédemment, on a vu que le parfum de notre adoration doit être salé, pur et saint.
Et aujourd'hui,
nous allons voir ensemble que l'adoration ouvre la porte du surnaturel. Parce qu'il y a un monde naturel dans lequel nous vivons. Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde.
Amen.
Et il a prié le Père en disant, ne les ôte pas du monde. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Royaume surnaturel de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel, étrangers et voyageurs sur cette terre. Et nous avons un accès. Écoutez bien, nous avons un accès. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors quand on lit ce verset sans vraiment le comprendre, on se dit, ok, c'est merveilleux les bénédictions spirituelles. Mais on
ne
sait pas vraiment de quoi il s'agit. On se dit, peut-être que c'est pour plus tard.
C'est
peut-être que c'est pour quand on sera dans le ciel et on n'arrive pas bien à comprendre. On essaye de saisir, mais il n'y a rien qui vient. En fait, ce qui amène les choses spirituelles dans le domaine du naturel, c'est notre foi, bien sûr, mais c'est aussi quand nous rentrons dans cette dimension de l'adoration où le diable ne peut plus te toucher du tout, mais pas du tout.
Où
tes pensées sont complètement déconnectées avec le naturel. Tu es entièrement connecté spirituellement à Dieu. C'est là que le surnaturel devient une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui luttent pour aider Dieu. Ils veulent convaincre Dieu. Ils veulent aider Dieu à les guérir, à sauver les membres de leur famille, changer certaines situations familiales ou professionnelles. J'ai une bonne nouvelle, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Vous savez, la semaine dernière, il y avait le témoignage d'Antoine et j'ai vraiment aimé. Parce que dans son témoignage, il a montré qu'il n'a fait aucun effort pour suivre le régime, aucun effort pour prendre les médicaments, et aucun effort non plus pour recevoir la guérison. Et vraiment, ça m'a parlé au cœur. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il a besoin de ton cœur. Que tu puisses l'aimer, l'adorer, et lui donner la place. Vous allez me dire, oui, mais ça, je veux le faire. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ma maison. Tu ne connais pas mes problèmes. C'est vrai, je ne les connais pas. Mais je connais le chemin. Et je connais la parole. Et je sais qu'elle va produire quelque chose pour ta vie. On va lire ensemble dans Deux Rois. Deux Rois, chapitre 3. Une histoire où on voit vraiment quelque chose qui se passe dans le domaine de l'adoration. Deux Rois, chapitre 3, verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen.
Kuva ku murongo w'icyenda gushika ku murongo wa 15 haravuga ngo nuko umwami w'Abisirayeli aragenda bona umwami w'Abayuda n'umwami w'Abanyedomu baca ahaziguye maze bageze bagenza imisindwi mu nzira ingabo zibura amazi boni n'inyumbu zibakurikiye ziremetse intekera zabo maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati tubonye ibara kuko uhoraho yakoranije turabami batatu ngo atugaburire mu maboko y'abanyemowabo Yehoshafati arabaza ati mbega nta uvugishwa n'uhoraho yoba ngaha ngo adusigurize uhoraho umwe mu bantu b'umwami w'Abisirayeli aramwishura ati Elisa mwene Shafati ari hano yahora ari umusuku wa Eliya Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'uhoraho riri kuri we nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati n'umwami w'Abanyedomu baramanuka bajiyari Elisa abarira umwami w'Abisirayeli ati dusangiye iki nawe genda usiguze bakamenye baso na bakamenye banyoko umwami w'Abisirayeli aramwishura toyaye kuko uhoraho yadukoranije turabami batatu ngo atugaburire mu maboko y'abanyemowabo Elisa aramwishura ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho nyene ingabo uwo nsavye iyo ntubaha Yehoshafati umwami w'Abayuda sinaruha nkuraba ngo ngushire kwijisho ariko noneho nzanira uvuza inanga uwo muvuzi w'inanga ashitse atangura kuvuza ukuboko kuhoraho kuza kuri Elisa amen
amen pour bien comprendre cette histoire
kugira ngo dutahure neza
on a besoin de connaître les personnages
tubwiza kumenya abo bantu
qui se trouvent dans cette histoire
bari muri ico kibanza
et on va voir qui était Josaphat
tugomba kumenya uwitwa Yehoshafati
wari we le roi d'Israël
twongere tumenye umwami wa Israel
et bien sûr qui était Élisée
twongere tumenye uwari we Élisée
le roi d'Édom on va pas en parler parce qu'on n'en parle même pas plus que cela dans ce texte ça n'a pas vraiment d'importance
umwami w'Abanyedom ntitunamuvuga ko ntacha
amazi il y a un roi Josaphat
hariho umwami yitwa
Yehoshafati un homme qui connaît Dieu
umugabo azimana
et vous devez comprendre une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, la connaissance de Dieu était assez limitée
parce
que les hommes n'étaient pas nés de nouveau.
Ils
n'avaient pas le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Ils avaient un accès à Dieu limité.
Mais
ce n'est pas parce que c'était limité
qu'il
était absolument impossible de voir la main de Dieu. Même des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, comme Naaman, par exemple, le lépreux, chef de l'armée de Syrie, a vu Dieu dans sa vie. Donc on va commencer par parler de Josaphat et on va lire ensemble dans 2 Chroniques quelques versets qui nous montrent qui était Josaphat, roi de Juda. 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques. Chapitre 17, versets 1 à 6. Donc Josaphat, son fils, c'est-à-dire le fils du roi précédent qui s'appelait Asa, Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce que il s'appelait Josaphat. Dieu fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen.
Kumurongo wa mbere haravuga ngo maze umuhungu wiwe Yehoshafati asubira ku ngoma yiwe. Araheza yigira gahambaye arinda n'Abisirayeli. Ashira ingabo mu bisagara byose by'Ubuyuda bizitiriwe inzitiro z'amabuye. Akwiragiza amaboma mu gihugu cy'Ubuyuda no mu gisagara cy'Efurayimu ivyo se Asa yahesheje umuheto. Uhoraho abana na Yehoshafati kuko yagendera mu ngeso sekuruza Dawidi yagendeyemo uhereye ubwa mbere ntaje gusiguza z'abayari ariko agasiguza Imana ya sekuruza akagendera mu vyagezwe vyayo ntagendere mu ngeso z'Abisirayeli nico catumye uhoraho akomeza ingoma yiwe abayuda bose bamuzanira imishikiro agira ubutunzi bwinshi n'icubahiro gihambaye umutima wiwe ugenda ushira ubwoba mu nzira nziza z'uhoraho akura mu Buyuda ibitagira ibitabo vyatabwe mu mpinga z'imisozi n'inkingi zishingiwe ashera. Amen.
Je veux vous présenter Josaphat
comme
un homme qui a su mettre une fondation dans sa vie. Le jour où il a commencé à régner, il a consacré sa vie à Dieu
et
il a commencé à marcher dans les voies de Dieu comme David le faisait. Vous savez, hier soir, je parlais avec quelqu'un à propos des choses de Dieu et on était en train de se dire la chose suivante. Les choses de Dieu n'arrivent jamais en claquant des doigts en un instant et comme un coup de baguette magique. Tout dépend de nous.
Amen.
Et de la façon dont on prend Dieu au sérieux et dans la façon dont on se prépare. Prépare-toi. Oui, dis-le à ton voisin, prépare-toi.
Prépare-toi.
Prépare-toi. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais prépare-toi à marcher dans le surnaturel. Dis-le-moi, prépare-toi à marcher dans le surnaturel. Amen. Josaphat s'est préparé. Il a fait un choix, il a pris une décision dans son cœur. Et au fur et à mesure qu'il s'est fortifié dans le Seigneur, il a débarrassé le pays de certaines choses. D'abord, des balles. Et ensuite, quand son cœur, verset 6, grandit dans les voies de l'Éternel, il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Verset 6.
Chapitre 17, verset 6.
Je vous assure que pour ce qui concerne le fait de marcher avec Dieu,
ce n'est
qu'une seule question. Une question de cœur. Une question de choix et une question de décision. Amen. Et bien sûr, ça demande de la persévérance dans sa décision. Donc, on voit ici dans l'histoire, on va revenir à notre histoire. On voit l'histoire, donc, Josaphat, un homme qui connaît Dieu, qui a pris une décision de marcher avec Dieu.
Mais
on voit un autre homme, le roi d'Israël, qui s'appelait Joram, c'était le roi Joram. Et ce roi Joram, c'était le fils d'Akab. Il n'avait pas le meilleur des pères. Mais ce n'est pas une raison. Lisons ensemble chapitre 3. On est dans 2 Rois, chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Amen.
Kuva ku murongo wa mbere avuga ngo mu mwaka ugira 18 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma niho Yeramu mwene Ahabu nyina yima mu Bisirayeli amari imyaka 12 ari ku ngoma i Samaria ariko ivyo akora ivyo uhora habona ko ari bibi mugabo ntiyashikira se na nyina kuko yakuyeho inkingi y'abayari iyo se yari yarashinze ariko rero yifatanya n'ivyaha vya Yeroboamu mwene Nabati ivyo yari yarakwegeyemwe Abisirayeli ntiyabivamwo.
Joram c'était un homme qui avait un cœur partagé. C'est vrai qu'il avait fait disparaître les Baals, les Astartés. Mais il adorait les veaux d'or que Jéroboam avait placés dans des hauts lieux. Et il ne s'en détournait pas. Amen. Il avait un cœur partagé, un cœur à moitié pour Dieu et un cœur à moitié dans l'idolâtrie. Et je vous assure que quand on n'a pas un cœur entier pour Dieu, on se met dans une position où on ne verra jamais, on ne comprendra jamais correctement les choses de Dieu. Jésus a dit dans l'Apocalypse, puisses-tu être froid ou bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et en fait, Joram, c'était un homme qui était rempli d'incrédulité, qui ne comprenait pas les choses qui étaient en train de se passer, qui les interprétait n'importe comment, parce qu'on le voit d'ailleurs dans le chapitre 5, quand Naaman va venir le voir pour qu'il soit guéri de sa lèpre, parce que Naaman c'était un homme lépreux,
et
il entend dire qu'il y a quelqu'un en Israël qui peut le guérir. Et comme c'est un homme militaire qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît rien du tout aux choses de Dieu, alors il va s'adresser au roi. Il va voir le roi avec une lettre, et cette lettre vient du roi de Syrie, et qui dit: quand tu vas recevoir cette lettre, il faut que tu guérisses mon serviteur Naaman. Et là, verset 7, lisez avec moi. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.
Kumurongo w'indwi haravuga ngo maze umwami w'Abisirayeli asomye iryo kete yitantamurira ko impuzu ziwe aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo ntume umuntu afa canka abeho kuko kuyu mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe eheraba ingene anyigenza ko muheze muvyiyumvire nama.
Encore et toujours, cet homme ne connaît pas Dieu, ne comprend pas les choses de Dieu et n'a aucune vision de ce que Dieu est capable de faire. Parce que vous voyez le chapitre 5, c'est après le chapitre 3, n'est-ce pas? Et dans le chapitre 3, cet homme, Joram, va voir des choses extraordinaires que Dieu fait. Mais il interprète les choses selon une mentalité humaine. sans aucune foi. Il va dire, quand il se trouve devant ce problème où il manque d'eau, c'est Dieu qui nous a attirés ici pour nous faire mourir. Qui l'a attiré ici? Personne, c'est lui seul qui a décidé d'y aller. Il a appelé Josaphat. Il a appelé le roi d'Édom. Il leur a dit, venez avec moi combattre mes ennemis. Dieu ne les a jamais attirés ici.
Il
ne connaît pas. Il ne comprend pas. Il ne sait pas analyser correctement les situations. Et de ce fait, il ferme la porte. La première, la deuxième, la troisième et toutes les portes à l'intervention divine dans sa vie. Et ça, vraiment, je veux vous parler ce matin. Faites attention au fait que votre cœur ne soit pas partagé, que vous n'ayez pas un cœur double. Oui, je marche quand même avec Dieu, mais je marche dans le péché, je marche dans la confusion, je marche dans l'idolâtrie. Vous allez me dire, mais moi, j'adore pas des statues. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer des statues. L'idolâtrie, c'est de mettre une chose quelconque ou une personne quelconque dans ta vie avant Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que tu aimes plus que Dieu, s'appelle de l'idolâtrie. Et si tu as une forme d'idolâtrie dans ta vie, tu ne verras pas, tu ne comprendras pas, tu n'arriveras pas à t'ouvrir dans ton esprit. C'est impossible. Bon, tu seras au bénéfice de la parole, ça va te bénir quand même. La présence de Dieu qui vient sur toi, ça va te rafraîchir. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu veut que cette église grandisse et que personne dise à son frère, connais l'Éternel. Personne ne dise à son frère, je vais te montrer, je vais t'expliquer, que la connaissance de Dieu remplisse vos cœurs comme l'eau couvre le fond des mers et que vous deveniez de vrais adorateurs, des personnes qui ouvrent la porte du ciel pour vous-même et pour des autres. Non, pour les autres. Et ensuite pour vous-même. Et que Dieu soit glorifié par d'authentiques et de puissants témoignages. Et que personne vienne dire, moi je connais l'onction. J'ai un ministère. Non, à Dieu seul soit la gloire. Lui qui veut se révéler, lui qui veut se manifester, lui qui veut faire de grandes choses afin que chacun tombe sur sa face et dise, c'est Dieu qui fait ces choses. Amen. Donc maintenant nous allons parler d'Élisée. Élisée, bien sûr, c'est un homme de Dieu, un prophète qui a été en contact avec Élie pendant 11 ans. Pas pendant 5 minutes, pendant 11
ans.
Un jour, Élie est venu le chercher et lui a dit, suis-moi, sois mon serviteur. Tiens, porte ma Bible. Allez, suis-moi, serre-moi un verre d'eau. Mais dépêche-toi un peu. Et je suis sûre qu'Élie disait pas souvent merci. Et Élisée était derrière. Ceci dit, je suis pas Élie, hein. Je suis pas Élie. Et tu n'es pas Élisée. Je suis Isabelle.
Je suis Alice.
Amen.
Amen.
Nous sommes les héros de la foi de notre génération.
Nous sommes les héros de la foi de notre génération.
Bien plus qu'Élie.
Amen.
Bien plus qu'Élisée.
Amen.
Parce que nous sommes nés de nouveau. Et la présence de Dieu va couler au travers de nous dans une autre dimension. dans une autre gloire, celle de l'adoration. Et je vous assure, et aussi pour vous, chaque personne ici qui le désire, parce que tous sont appelés. Maintenant, regarde si ton cœur est comme celui de Joram ou comme celui de
Josaphat.
Amen.
Amen.
Donc, on en revient à Élisée. Élisée, quand il entend le discours de Joram, c'est l'Éternel qui nous a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Il lui dit, tu sais, hein, va vers les prophètes de ton père. Va vers les prophètes de ta mère. Parce que s'il n'y avait que toi, je te promets que je ne te regarderai pas. Il y a une irritation dans l'esprit, dans le cœur d'Élisée. C'est quelque chose de spirituel. Vous savez, Élisée, ce n'était pas quelqu'un de méchant. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Mais quand il voit autant d'incrédulité, autant d'idolâtrie, ça l'irrite dans son cœur. Et il va dire, a fait venir un joueur de harpe. Non pas parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le joueur de harpe. C'est un homme qui joue de la musique. Et pendant qu'il est en train de jouer, Élisée est en train de sortir de son énervement. Il est en train de sortir de sa colère et il ouvre son cœur dans la présence de Dieu, un certain niveau d'adoration, parce que les vrais adorateurs, c'est vous et moi, parce que nous sommes nés de nouveau. Élisée n'était pas né de nouveau, mais ce principe de l'adoration existait d'une façon faible. C'était une ombre. La réalité est en Christ. Qu'est-ce que je veux vous montrer au travers de cela? Je vous assure, chaque personne ici, du moment où elle se lève, depuis le moment où elle se lève, jusqu'au moment où elle se couche, se trouve devant des circonstances, entend des paroles qui sont énervantes, qui sont fatigantes, qui sont humiliantes, qui sont déstabilisantes, qui sont menaçantes, qui sont blessantes. Tout le monde, puisque nous sommes sur cette terre des êtres humains, chaque jour, nous recevons cela en pleine figure. Donc maintenant, tu peux réagir comme Joram en disant c'est la volonté de Dieu. Ou tu peux réagir comme Élisée et dire, moi, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas écouter cela. Je ne veux pas être chargé par cela. Je ne veux pas être écrasé par cela. Mais je veux venir dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Et tu n'as pas besoin d'un orchestre. Amen. Tu n'as pas besoin de tout un groupe. Tu peux adorer Dieu toi seul, là où tu es. Tu peux dire, mais moi je ne sais pas chanter. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Je ne connais pas vraiment des chants d'adoration. Vous savez, les chants d'adoration, il y en a qui sont bons, d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'on va voir que l'adoration doit être tournée et offerte à Dieu seul. Et tu peux, là où tu es, commencer à adorer Dieu, chanter en langue. Tu es merveilleux, Seigneur. Chante avec moi. Nimwiza Yesu. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es saint. Uruera. Amen. C'est comme ça.
Amen.
C'est comme ça. Et à ce moment-là,
Ahonyene,
quand il est sorti de ses pensées, quand il est sorti de son âme, de son énervement, alors la main de l'Éternel fut sur lui. Et c'est là qu'il va recevoir une parole de délivrance, une parole extraordinaire. Écoutez un peu cette parole, verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans ces vallées des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez et vos troupeaux, et vous boirez vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux qui étaient en âge de porter les armes et même au-dessus. Ils se tinrent sur la frontière, ils se levèrent de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux et ils se sont frappés les uns aux les autres. Maintenant, Moabites au pillage et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Devant eux, ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Amen. Tu vas lire seulement le verset 20.
Kumurongo wa 20 haravuga ngo bukeye nko mu gitondo cyo gutanga ikimazi cyo bukeye nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyo mu gitondo bagize bacya babona amazi aturutse mu gihugu cha Edom nuko ico kiyaga cyuzura amazi. Amen.
Ils ont reçu cette parole. Élisée a reçu cette parole.
Élisée a reçu ce jambo
de creuser des fosses.
Yo kwimba
et inogo. Le matin,
mu gatondo,
pas quand ils ont creusé les fosses.
Atari cho gihe bimvye.
Amen.
Amen.
Le matin,
mu gatondo,
l'eau est venue.
Amazi acharaza,
a rempli ces fosses.
Yuzura ivyo binogo,
et tout le monde a pu boire.
Bose bacha baranywa.
Et les Moabites, quand ils ont vu ça,
abanyemoabo babonye
ivyo, ils pensaient que c'était du sang. Que les gens s'étaient entretués
et
ils se sont précipités pour aller au pillage. Seulement ce sont eux qui se sont fait détruire. Amen.
Amen.
Dieu a une intelligence
au-dessus
de notre intelligence. Arrêtez de dire à Dieu comment il doit faire.
Vous
savez, Naaman aussi, le lépreux a fait cette erreur.
Naaman
a dit, oui, le prophète viendra sur la place de la ville. Il agitera sa main comme ça et comme ça. Et il guérira le lépreux. Et Élisée lui a dit, va te laver dans le Jourdain cette fois. Être un adorateur nous permet de nous ouvrir au surnaturel de Dieu, de comprendre, d'entendre ce que Dieu veut faire et la façon dont il veut le faire. Parce que Dieu fait toutes choses parfaitement en son temps. Il agit comme il veut. Quand on lui en donne l'occasion, Dieu veut faire de grands miracles. Je vous assure qu'il veut le faire. Mais à cause de nos mentalités, à cause de nos pensées qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas les pensées de Dieu, à cause parfois du péché, à cause parfois de l'orgueil, c'est par moi que ces choses vont arriver. Vous savez, Dieu peut le faire même au travers des petits-enfants qui sont dans la classe de 0-3 ans.
Ici.
Je ne sais plus dans quelle époque c'était, je ne sais pas si c'était les années 70, quelque chose comme ça. Un endroit qui s'appelle Timor. Dieu a fait un énorme réveil au travers des enfants. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de personnes sauvées. Amen. Dieu cherche seulement un cœur qui est capable de l'écouter et de lui donner la place. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, j'ai juste fait la première partie par rapport à l'adoration qui ouvre la porte du surnaturel. Et la prochaine fois que nous continuerons encore, expliquer ce qu'est vraiment l'adoration et de voir comment l'adoration, la vraie adoration,
quand
l'Église entière adore Dieu, on verra comment cela amène la manifestation de la gloire de Dieu, de sa gloire et ses jugements. Et quand on parle de jugement, on
ne
parle pas de jugement sur nous. Amen. Parce que nous avons déjà été jugés. Jésus a pris notre condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Celui qui est jugé, c'est le diable, ses œuvres. Et c'est là qu'on verra que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez bien, Église de Dieu, préparez-vous, parce que dans ces prochains jours, vous allez voir les œuvres du diable détruites dans vos maisons, dans vos familles, dans vos vies, chez vos maris, chez vos femmes, chez vos enfants, l'une après l'autre. Dieu va envoyer ses jugements. Amen. Contre notre ennemi. Et cette onction qui se manifeste par, au travers de la véritable adoration va couler d'une façon extraordinaire. Et nous allons voir des guérisons. Et nous allons voir de grandes choses. Des choses plus grandes que celles que nous avons vues dans le passé. Des choses plus grandes que celles dont nous avons entendu parler. Des choses plus grandes que celles qui étaient accomplies dans les temps anciens. Parce que nous sommes les héros de la foi de notre génération. Et Dieu a mis en réserve le plus grand et le meilleur pour le temps présent. Et si l'ennemi est venu comme un fleuve dans ta vie, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui va le mettre en déroute. Aujourd'hui, j'ai posé une fondation. Prochainement, on en posera une autre. Mais ce que je vous demande, c'est de préparer vos cœurs. Amen. Parce que Dieu veut Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut briser des jougs. Mais il a besoin que toi aussi, tu sois là. Non pas avec le cœur de Joram, mais avec le cœur de Josaphat et le cœur d'Élisée. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, le groupe de louanges approché. Seigneur, merci. Parce que tu nous montres le chemin. Tu nous montres le chemin des choses que tu veux manifester, des choses que tu veux faire. Et nous avons soif. Nous avons tellement soif. Tellement soif de Dieu. Des choses de Dieu. Nous sommes tellement fatigués du monde. Des choses du monde. Et de l'esprit du monde. Nous accueillons les choses de Dieu. Nous accueillons l'esprit de Dieu. Nous voulons examiner nos cœurs et permettre aux choses de Dieu d'être manifestées et exactement comme il veut le faire. Seigneur, merci pour ce temps, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, là où tout est possible. Je dis que là où tout est possible, et nous voulons vraiment nous emparer de tout ce qui est possible et de tout ce que tu veux faire, en ayant ce cœur qui te donne toute la place, qui te permet d'agir comme tu en as envie. Parce que Seigneur, tu n'as pas besoin de notre aide, tu n'as pas besoin de nos conseils, tu as juste besoin qu'on te laisse la place.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.